Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Cécile Kessler, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes coordinatrice du pôle installation transmission foncier chez AgroBio 35, le groupement des agriculteurs biologiques d'Ille-et-Vilaine, qui invitait la semaine dernière des professionnels et des élus à un échange pour mettre en lumière un diagnostic qui a été réalisé sur les terres bio du département. Pour commencer, ça implique quoi cette casquette que vous portez, donc de coordinatrice du pôle installation transmission foncier? C'est quoi votre quotidien?
Alors, mon quotidien, c'est de coordonner toutes les actions d'AgroBio 35 sur l'installation agricole, la transmission des fermes bio et le foncier. C'est-à-dire que actuellement, il y a à peu près 40% des installations en Ille-et-Vilaine qui sont effectuées en agriculture biologique, c'est-à-dire 4 installations sur 10. Et c'est très important pour nous de pouvoir accompagner les porteurs de projets qui s'installent pour pérenniser leurs installations et leur donner toutes les clés pour avoir des projets qui soient viables et vivables. Et donc, on a tout un panel d'actions qu'on propose pour les accompagner. Et pareil sur la transmission, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir maintenir les terres en bio quand les agriculteurs arrêtent leur activité.
AgroBio 35, c'est une association qu'on invite régulièrement au micro de Canal B. On redit un petit peu sur les chiffres, à peu près combien d'agriculteurs y adhèrent, quelles équipes les accompagnent et de quelle manière, pour représenter la structure aux auditeurs qui ne la connaissent pas.
Alors, AgroBio 35, c'est une association qui regroupe plus de 500 adhérents. C'est à peu près un tiers des fermes bio d'Ille-et-Vilaine. Et on est une équipe de 30 salariés environ qui les accompagnent au quotidien sur différentes actions. Ça peut être des groupes d'échange, de la formation et aussi de l'accompagnement sur la commercialisation, les filières bio, etc. Et évidemment l'installation, la transmission. On les accompagne d'un point de vue technique, donc on a des techniciens et techniciennes qui sont spécialisés sur les différentes productions, sur la biodiversité, sur le climat.
Quel est le point de départ au lancement du diagnostic qui nous amène à échanger aujourd'hui ? C'était peut-être une intuition qui avait besoin d'être chiffrée plus précisément sur donc le sujet du maintien des terres bio en bio.
Oui, alors le constat qui nous a mené à conduire cette étude en 2024, c'est avant tout les chiffres du recensement agricole qui est sorti en 2020, qui montre qu'une ferme sur deux va être à transmettre dans les 10 prochaines années. C'est quand même un chiffre qui est très important. Et l'association Terre de Liens a un autre chiffre alarmant, qui est que 200 fermes disparaissent chaque semaine en France. Et il y a seulement un départ sur trois qui est remplacé. Donc ça conduit plusieurs fermes à disparaître. Et nous, ce qui nous interpelle, c'est de voir si ce phénomène se répercute également sur les fermes bio. Parce que du coup, la fin de la décennie 2010 a été assez marquante dans le développement de l'agriculture biologique avec une forte dynamique de conversion qui s'est un petit peu ralentie ces dernières années, notamment avec la crise de l'agriculture biologique des deux dernières années. Nous, ce qu'on constate actuellement, c'est que la dynamique de l'agriculture biologique, elle est portée par les installations. Il y a de plus en plus de fermes bio dans le département et en France. Par contre, ce qu'on a vu cette année, c'est qu'en 2023, c'est la première fois qu'il y a un recul dans les surfaces bio.
À l'échelle nationale.
À l'échelle nationale, et ça se voit également en Ille-et-Vilaine, avec 2% de la SAU en moins en bio, avec toujours plus de fermes. Mais donc on voit que les installations ne compensent pas, entre guillemets, les arrêts d'activité. Donc nous, on a cherché déjà à comprendre en 2023 quels étaient les freins au maintien des terres en bio au moment de l'arrêt d'activité. Donc une étude qualitative a été menée, des entretiens ont été conduits avec une vingtaine d'agriculteurs et agricultrices bio. Et cette année, on a souhaité observer la représentation de ces freins sur le territoire, essayer de voir quantitativement ce que ça donne. Et on voulait également identifier les terres à risque de non-maintien en bio dans les 10 prochaines années.
On a donc dit que pour la première fois, les surfaces agricoles bio sont en recul en France. Quelles sont un peu les spécificités pour la région Bretagne, y compris l'Ille-et-Vilaine ? Est-ce qu'on peut dire que malgré une progression de l'agriculture biologique, la part des fermes en bio sur l'ensemble des fermes reste relativement faible ? On est sur 10%, je crois, des surfaces.
C'est ça. En Ille-et-Vilaine, il y a à peu près 11% de la surface agricole utile qui est en bio. Et sur le territoire qu'on a étudié dans le cadre de cette enquête, c'était 10% à peu près de la SAU, donc ça se recoupe un petit peu. Parce qu'on a conduit cette étude sur 4 territoires de l'Ille-et-Vilaine, ce qui représente un peu plus de la moitié du département en termes de surface. En parlant de surface, effectivement, ça semble assez faible. En revanche, c'est une ferme sur 4 du département qui est bio. Donc c'est quand même assez important.
On le redit, donc le travail que vous avez mené, il s'est déroulé en 2 temps. Vous n'étiez pas seul, mais entouré de plusieurs partenaires. C'est le moment où on parle des territoires d'études où vous êtes allé, et puis d'autres partenaires plutôt de type associatif.
C'est ça. Alors on a été accompagné dans cette étude par Terre de Liens et le CIVAM Installation Transmission d'Ille-et-Vilaine. Et les territoires partenaires de notre étude, c'était le bassin versant du Linon, le bassin versant du Couesnon, dans le nord-est du département, Rennes Métropole, et Haut-et-Vilaine, l'unité de gestion de la Vilaine-Est.
Le Linon, ça donne où, ça ?
Le Linon, c'est le nord-ouest
du département. Il faut redire un mot quand même sur donc le CIVAM, ce sont des centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et Terre de Liens mène tout un travail justement d'accès aux fonciers pour des projets agricoles plus vertueux, on le dit comme ça ?
Oui, c'est ça. Et surtout, ce qui est important de mentionner, c'est que les personnes qui s'installent font de l'agriculture biologique et il y a une sanctuarisation de ces terres avec des baux ruraux à clause environnementale.
Très concrètement, quels éléments est-ce qu'on peut donner sur les menaces qui pèsent sur le maintien des terres en bio ? Ça joue en fait à un moment bien précis qui est celui de l'arrivée en retraite de ces agriculteurs-là qui vont être nombreux à laisser leur ferme d'ici quelques années.
Alors effectivement, le départ à la retraite, ça concerne à peu près 70% des personnes qu'on a enquêtées. On a eu 140 réponses à cette enquête, donc 140 fermes bio. Et on se rend compte qu'il y a aussi d'autres motifs d'arrêt d'activité. Par exemple, des personnes qui ont atteint la fin d'un cycle, qui souhaitent se reconvertir professionnellement, ou d'autres personnes qui arrêteraient plus pour des raisons de santé ou de fatigue, ce qui peut amener un départ avant l'âge de la retraite. Donc nous, on a souhaité avoir un panel assez représentatif de tous ces cas de figure. Donc on a souhaité interroger un panel représentatif en termes des productions sur l'Ille-et-Vilaine, c'est-à-dire qu'on a à peu près 30% d'élevage bovin, à titre d'exemple, et 20% de cultures légumières, maraîchères, et 10% de personnes qui font des grandes cultures dans l'enquête. Et du coup, les menaces qui pèsent sur le maintien des terres en bio au moment de l'activité, ça va être différents facteurs qui ont été mis en lumière par l'étude de 2023. Donc il y a à la fois des déterminants qui vont être psychosociaux, par exemple la volonté de transmettre en bio, l'acceptation du changement également de production sur sa ferme au moment de la reprise, et aussi l'évaluation personnelle de la transmissibilité de sa ferme. On va aussi avoir d'autres facteurs, par exemple le facteur de la viabilité économique. Est-ce que c'est une ferme qui est viable ? Ça peut impacter la représentation qu'ont les cédants de la transmissibilité de leur ferme. On regarde également si les personnes sont satisfaites de leurs revenus en fonction de leur temps de travail, parce que ça peut aussi impacter leur volonté de transmettre. On regarde aussi quelle est la structure de la ferme, est-ce qu'il y a des associés qui sont présents, s'il y en a, est-ce qu'ils partent à la retraite en même temps que la personne qu'on a enquêtée ? Si oui, est-ce que la ferme du coup va se trouver disponible ? Et sinon, ça veut dire que les associés vont rester, les terres vont rester en bio également. On regarde aussi quelle est la maîtrise du foncier chez les agriculteurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu un peu creuser dans le cadre de cette enquête. On a regardé quel était le pourcentage de terres en propriété des agriculteurs et quel était leur nombre de propriétaires, si jamais ils étaient plutôt locataires. On regardait aussi quelle était la pression sur le foncier autour de chez eux, s'il y avait de la concurrence sur les terres agricoles qui était ressentie avec les voisins sur le territoire. On regardait également quelle était la pression urbaine et on leur laissait la possibilité de nous dire s'il y avait des parcelles de leur ferme qui étaient à risque de non-maintien en bio pour différentes raisons. Par exemple, une parcelle trop éloignée qui est difficile à cultiver, qui peuvent donc laisser à quelqu'un d'autre qui ne serait pas forcément en bio. Voilà. Il y a aussi d'autres projets qui peuvent impacter les terres bio, les projets d'agrivoltaïsme.
Donc le fait d'installer des panneaux photovoltaïques sur des surfaces qui pourraient être cultivables.
Voilà. Et un autre facteur important, c'est la volonté des propriétaires sur leurs terres. Parce que tous les propriétaires ne sont pas agriculteurs. Et parfois, les propriétaires souhaitent récupérer leurs terres pour installer un membre de leur famille ou alors pour les exploiter eux-mêmes en conventionnel. Donc ça aussi, ça peut être un facteur de non-maintien en bio.
Là, j'entends qu'il y a quand même la question de est-ce qu'on est propriétaire ou pas de son terrain qui joue beaucoup, évidemment, sur l'avenir de ces terres cultivées en bio. Est-ce que vous avez le chiffre sur quel est le profil qui se dessine le plus des agriculteurs qui sont propriétaires ou non de leur terrain ?
Oui, alors dans notre enquête, on a vu qu'en moyenne, les agriculteurs ont 4,5 propriétaires. Le nombre de propriétaires augmente, plus la surface de la ferme augmente. C'est intéressant de voir qu'en France, la moyenne, c'est 11 propriétaires pour les agriculteurs. Donc, dans notre panel, il y a moins de propriétaires à aller voir potentiellement quand on souhaite transmettre pour faire part de son projet, s'assurer que les propriétaires souhaitent bien qu'il y ait un repreneur, que les terres continuent à être cultivées en bio, etc.
Si on continue à tirer le fil, là, si on se pose toutes ces questions, on imagine qu'en fait, ça prend un temps important pour préparer son projet de reprise et de maintien des terres bio. Ça veut dire qu'il faut s'y prendre longtemps avant d'arriver au moment de la retraite pour se poser toutes ces questions-là ?
Exactement. Et c'est un autre facteur qui a été mis en lumière par cette étude, c'est qu'on doit anticiper sa transmission. C'est quelque chose qu'on essaye de diffuser comme idée, en tout cas, que les agriculteurs se penchent sur leur transmission 5 à 10 ans avant leur date de départ, parce qu'il y a énormément de choses à anticiper. Il faut sonder dans sa famille si quelqu'un souhaite reprendre l'activité. Sinon, il faut trouver un repreneur à l'extérieur. Il y a aussi pas mal de démarches à réaliser auprès de la mutualité sociale agricole ou auprès des banques. Voilà, quelle stratégie d'entreprise on souhaite également sur les dernières années? Est-ce qu'on souhaite plutôt lever le pied, donc travailler moins? Voilà, c'est des choses à réfléchir pour pouvoir terminer en beauté. Donc voilà, on se rend compte, nous, dans le cadre de cette enquête, que les agriculteurs ont du mal à anticiper cette transmission. Et on se retrouve donc avec à peu près plus de un quart des agriculteurs bio qui souhaitent arrêter dans 3 à 5 ans, qui n'ont pas commencé à réfléchir à la question de la transmission. Et il y a aussi 35% des agriculteurs bio qui souhaitent arrêter leur activité d'ici 3 ans, qui n'ont pas trouvé de repreneur. Ça illustre que on a quand même des chiffres qui sont assez alarmants et il faut qu'on puisse travailler dessus.
Ces éléments amènent donc à une situation de risque pour certaines terres qui sont aujourd'hui cultivées en bio. C'était la question que posait votre diagnostic. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces terres qui ont été identifiées à risque ? Elles sont nombreuses ?
Alors oui, elles sont nombreuses. Donc on a eu deux méthodes pour identifier les terres à risque. On a les terres qui sont à risque avéré, donc là c'est les agriculteurs au cours de l'enquête qui nous disaient, alors j'ai tant d'hectares, tant de parcelles qui sont concernées par un risque. Tout ça, ça nous conduit à un total de 1100 hectares qui sont à risque avéré de sortir de la SAU bio. Ça représente à peu près la superficie de Noyal-Châtillon-sur-Sèche pour celles et ceux qui connaissent.
Commune près de Rennes.
Voilà, donc c'est assez élevé en termes de surface. Et on a également utilisé une autre méthode. On a réalisé une analyse en attribuant des notes aux différents facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc la maîtrise du foncier, est-ce que l'agriculteur a plus ou moins de pouvoir sur son foncier? Est-ce que la structure de la ferme est plutôt favorable à une transmission en bio ou pas? Quelle est l'anticipation de cette transmission? Quels sont les facteurs économiques qui peuvent jouer en faveur? Et les facteurs psychosociaux? Et donc, cette méthode-là a une vision plus globale à l'échelle de la ferme. Et ça nous permet d'estimer un nombre d'hectares qui vont être à risque de non-maintien en bio. On a effectué des moyennes et on a attribué des risques faibles, modérés ou forts en fonction du nombre d'indicateurs critiques. Et on se rend compte que sur le territoire de l'enquête, il y a 4700 hectares c'est-à-dire 65% de la SAU du territoire qui est à risque de non-maintien des terres en bio. Et une ferme sur deux qu'on a enquêtée avait au moins un indicateur critique.
Si vous avez mené ce diagnostic, c'est pour essayer évidemment d'identifier des leviers et d'agir maintenant pour éviter de perdre de la surface cultivée en bio d'ici quelques années avec le départ en retraite de nombreux agriculteurs dans la région Bretagne. On a déjà parlé un peu du levier sur la transmission. Il y a aussi celui de l'installation, finalement vos deux champs d'intervention chez AgroBio 35. C'est peut-être là que ça prend une tournure plus politique, de donner envie à des jeunes de s'installer aujourd'hui en agriculture biologique.
Tout d'abord, il faut quand même rappeler qu'actuellement, les installations en bio sont principalement sur des petites surfaces et en culture spécialisée, donc plutôt maraîchage, arboriculture, plantes aromatiques et médicinales. Et la plupart des fermes à transmettre sont des fermes qui ont plutôt des tailles moyennes, entre 40 et 60 hectares pour les fermes bio, qui sont pour la plus grande part des fermes laitières. Nous, ce dont on se rend compte, c'est que s'il y a un recul des surfaces bio actuellement, c'est que les projets d'installation ne correspondent pas forcément aux fermes qui vont être à reprendre.
Il y a une sorte d'inadéquation entre ce qui est à laisser et ce dont ont besoin les jeunes agriculteurs bio, quoi.
Exactement. Donc nous, on ne peut que encourager les porteurs de projets qui souhaitent s'installer de s'ouvrir à d'autres possibilités, d'aller voir également du côté de l'élevage et de casser les idées reçues sur le fait que ce soit un métier difficile, qui prend beaucoup de temps, etc. On a sorti toute une série de vidéos et de ressources sur le métier d'éleveur et d'éleveuse bio pour déconstruire ces préjugés. Ensuite, nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est de toujours sensibiliser et former les agriculteurs, agricultrices bio sur les thématiques de la transmission, renforcer également le travail de mise en relation entre les porteurs de projets qui sont à la recherche de foncier et les personnes qui souhaitent transmettre.
Vous défendez un principe de sanctuarisation des terres bio et vous l'avez notamment défendu la semaine dernière lors de cette journée de présentation là, un peu de vos résultats de ce travail mené depuis 2023. C'est un temps organisé à destination des professionnels et d'élus et justement il y avait la question du soutien politique. On peut le redire, Rennes Métropole est particulièrement engagée sur des choses très concrètes, mettre plus d'alimentation biologique dans les cantines, destiner des espaces agricoles à l'installation de nouveaux projets. Vous avez senti un soutien politique lors de cette journée qui était aussi pensée pour les élus ?
Oui, il y a eu plusieurs élus du département, de communautés de communes, de collectivités, une députée également, Mathilde Igné, qui était présente à la restitution. Je pense qu'on a réussi à faire passer des messages et à faire prendre conscience de la nécessité de protéger les terres bio. Il faudrait qu'on puisse agir pour rendre prioritaire en fait les installations bio quand il y a des projets bio et dans les instances dédiées à la gestion du foncier. Et il y a également un travail de plaidoyer à faire, je pense, au niveau politique pour que les installations en bio puissent être favorisées. Mais ça, la Fédération nationale d'agriculture biologique travaille sur ces questions-là et on est en lien avec eux là-dessus. Et d'autres choses qui peuvent être mises en place, c'est quand des communes sont propriétaires de fonciers, par exemple, elles peuvent mettre en place des baux ruraux à clause environnementale pour favoriser des pratiques durables et dont l'agriculture biologique qui peut être une de ces clauses. Ça, c'est quelque chose qui peut aider à sécuriser les agriculteurs et à sécuriser les terres.
Donc vous menez du plaidoyer vers les politiques, un petit peu aussi vers les consommateurs qui sont quand même partie prenante là, de tous ces sujets qu'on évoque. On a aussi besoin de plus de consommateurs, quoi, de produits biologiques.
C'est ça, on a à la fois besoin d'espace pour commercialiser les produits bio. Pourquoi pas offrir des places de marché aux producteurs bio, les rendre visibles, surtout quand ils sont du territoire de la collectivité. Et ensuite, évidemment, vous l'avez dit, le levier de la commande publique pour mettre plus de produits bio dans les cantines. On peut accompagner les communes pour que ce soit pas forcément plus cher pour les communes de mettre en place des menus avec des produits bio. Et évidemment, on encourage les consommateurs, consommatrices à consommer bio et local.
Cécile Kessler, je vous représente, vous êtes coordinatrice du pôle installation, transmission, foncier chez AgroBio 35, le groupement des agriculteurs biologiques en Ille-et-Vilaine, qui invitait donc la semaine dernière des professionnels et des élus à un échange pour mettre en lumière ce diagnostic réalisé sur une grande partie quand même des terres bio du département. Et on vous retrouve en ligne sur un site internet dédié. Merci beaucoup.
Merci à vous.